Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les privilégiés de la République » est un essai de journalisme politique et social dans lequel Olivier Calon examine des avantages statutaires, matériels ou sociaux attribués à certaines catégories professionnelles et institutionnelles françaises. Son propos ne porte pas seulement sur les responsables politiques, il parcourt notamment les entreprises publiques, la haute fonction publique, le Parlement, la Banque de France, les transports, le secteur culturel et certains corps spécialisés. Le livre rassemble des informations relatives aux rémunérations, au temps de travail, aux retraites, aux prestations collectives, au logement et au régime dérogatoire. Il défend une thèse critique des droits acquis, bien que légaux, peuvent devenir peu lisibles pour les citoyens, coûteux pour les finances publiques et difficilement conciliables avec un idéal commun de traitement équitable, conçu comme un inventaire argumenté. Plutôt que comme une étude académique exhaustive, cet ouvrage cherche à nourrir le débat sur la dépense publique, la transparence administrative et les inégalités entre statuts professionnels. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un inventaire transversal des avantages attachés au statut protégé. La singularité première du livre tient au champ très large de son enquête. Olivier Calon ne réduit pas la notion de privilège aux indemnités des élus ou aux dépenses liées aux anciens dirigeants. Il met en regard des univers qui sont rarement analysés ensemble personnels de grandes entreprises publiques, agents de la fonction publique, parlementaires, membres de corps spécialisés, intermittents et salariés de structures institutionnelles. Cette méthode fait apparaître que les écarts ne proviennent pas uniquement du niveau de salaire. Ils peuvent résulter de règles de retraite, de congés, de durée effective du travail, de dispositifs sociaux ou de conditions fiscales particulières. Le terme de privilège est ainsi employé pour désigner des exceptions durables au droit commun, et non nécessairement des pratiques illégales. Ce cadrage est important, car il déplace le débat de la faute individuelle vers la construction historique des statuts. Les avantages évoqués ont souvent été obtenus par négociation, justifiés par des contraintes de métier ou maintenus par inertie administrative. Le livre invite donc à comparer leur finalité initiale avec leur pertinence actuelle. En juxtaposant les secteurs, il souligne aussi un problème de visibilité, un avantage dispersé dans des conventions, des règlements internes ou des régimes particuliers reste moins contesté qu'une dépense immédiatement identifiable dans le budget de l'État. Deuxièmement, le coût collectif des régimes dérogatoires au centre de la critique, le livre relie les avantages professionnels à une question budgétaire plus générale. Selon les présentations publiques de ouvrages, Olivier Calon estime que les avantages acquis examinés représentent une charge annuelle importante, parfois chiffré autour de 23 milliards d'euros. Ce montant doit être lu comme un ordre de grandeur défendu par auteur, non comme un chiffre budgétaire officiel unique, car le calcul dépend nécessairement du périmètre retenu et de la valorisation des droits indirects. Son intérêt analytique réside surtout dans le raisonnement proposé. Un coût public ne se limite pas au versement direct de salaire, il peut prendre la forme de cotisations spécifiques, de départ en retraite plus favorable, de subventions croisées, de logements à tarifs réduits ou de moindre durée de travail. Ces mécanismes rendent la comparaison avec le secteur privé complexe et souvent opaque. En insistant sur cette addition de dépenses visibles et moins visibles, l'ouvrage interroge les priorités de l'État dans un contexte de contraintes financières. Il ne suffit pas de dénoncer un avantage isolé, il faut déterminer qui le finance, quels services il compense et si son maintien produit encore un bénéfice collectif proportionné. Cette approche donne au débat une dimension de responsabilité budgétaire, tout en rappelant implicitement que toute réforme exige des données comparables et une évaluation rigoureuse. Troisièmement, temps de travail, retraite et prestations comme source concrète de différenciation, Olivier Calon organise sa critique autour de paramètres très concrets de la condition professionnelle. Les salaires ne constituent qu'une partie de la rémunération réelle. La durée annuelle de travail, le nombre de jours de congé, les primes, la protection sociale, les prestations de comité social, les possibilités de logement et les règles de pension peuvent modifier fortement la valeur globale d'un emploi. Le livre attire ainsi attention sur la différence entre revenus affichés et ensemble des droits associés à un statut. Cette distinction est utile pour comprendre pourquoi des comparaisons simplifiées entre professions déclenchent souvent des controverses. Deux postes proches en qualification ou en responsabilité peuvent comporter des protections très différentes. Les exemples cités autour de la Banque de France, des transports publics ou de certains personnels administratifs servent à illustrer cette logique de cumul. Leur fonction dans essai est moins de prétendre que chaque salarié est indûment favorisé que de poser la question de la cohérence entre règles communes et exceptions. Une analyse sérieuse doit toutefois intégrer les contraintes de service, les horaires atypiques, la pénibilité, les compétences rares et les obligations de continuité. Le mérite du livre est de rendre ces sujets discutables à partir de critères identifiables. Sa limite assumée est celle d'une enquête polémique. Le lecteur doit distinguer les faits rapportés, leur interprétation et les justifications possibles des statuts concernés. Quatrièmement, la critique vise les mécanismes institutionnels plutôt que la seule classe politique. Un apport notable de l'ouvrage consiste à relativiser une représentation fréquente du privilège public. Les responsables politiques occupent une place symbolique forte dans les débats, mais l'auteur indique que son examen des politiques au sens strict ne représente qu'une fraction de l'ensemble. Son attention se porte davantage vers des professions protégées ou des institutions dont les dispositifs sont moins exposés au regard public. Cette perspective évite de faire du sujet un simple réquisitoire contre les élus et souligne le rôle des règles administratives dans la production des inégalités. Des droits peuvent se maintenir longtemps parce que les bénéficiaires sont organisés, parce que les règles sont techniques ou parce que leur coût est réparti entre plusieurs budgets. La surveillance accrue des frais parlementaires, évoquée dans les commentaires liés au livre, montre également que la transparence varie selon les secteurs. Là où des procédures de contrôle et de publicité existent, les avantages sont plus facilement débattus et corrigés. Là où les conventions internes sont difficiles à lire, le contrôle citoyen demeure plus faible. Le livre conduit donc à une réflexion institutionnelle : comment rendre comparables les régimes, publier les avantages en nature et évaluer périodiquement les dérogations. Une telle démarche ne suppose pas que toute différence soit injustifiable. Elle exige plutôt que chaque exception soit explicitement motivée, contrôlée et confrontée à son coût social. En dernier lieu, égalité républicaine et réforme des droits acquis sans réductionnisme. Le fil directeur de Les Privilégiés de la République est la tension entre égalité républicaine et accumulation de droits particuliers. En France, égalité devant la loi possède une charge historique et politique considérable. Olivier Calon utilise ce principe pour questionner la coexistence de multiples régimes spéciaux, dont certains semblent éloignés des conditions ordinaires de travail et de retraite. Le livre ne présente pas la réforme comme une opération comptable neutre. Toucher à un avantage acquis affecte des carrières, des organisations de services publics et des équilibres sociaux construits sur plusieurs décennies. Cependant, son argument est que l'ancienneté d'un droit ne suffit pas à établir sa légitimité permanente. Une réforme équitable devrait donc examiner la justification de chaque dérogation, protéger les situations déjà engagées et empêcher la création de nouvelles inégalités entre générations. Cette ligne de réflexion est plus féconde que opposition binaire entre défense des salariés et dénonciation des privilégiés. Elle oblige à séparer les compensations liées à une contrainte réelle, telles que certains horaires ou risques, des avantages dont la raison initiale a disparu ou qui sont devenus disproportionnés. Par son ton, volontairement critique, Essai cherche à rendre cette hiérarchisation politiquement impossible à éluder. Il rappelle enfin que la crédibilité de l'action publique dépend aussi de sa capacité à appliquer des règles transparentes à ses propres institutions. En conclusion, Les Privilégiés de la République intéressera les lecteurs qui souhaitent comprendre les débats français sur les dépenses publiques, les régimes spéciaux, la fonction publique et les écarts entre statuts professionnels. Il peut être utile aux citoyens, étudiants, journalistes et responsables associatifs qui cherchent une porte entrée concrète dans une matière souvent technique. Sa lecture fournit surtout une grille de comparaison au lieu de limiter la rémunération au salaire mensuel. Elle incite à considérer retraite, horaire, congé, avantages en nature, fiscalité et protection collective. Cette grille aide à lire avec davantage de recul les controverses sur les réformes sociales. Le livre se distingue des essais généraux sur la crise des finances publiques par son inventaire sectoriel et par son choix de faire porter attention sur des privilèges légaux, mais peu visibles. Il ne concentre pas sa critique sur une élite unique, ni sur les seuls élus, mais met en relation plusieurs institutions et métiers. Cette amplitude donne une vision plus diffuse des mécanismes de différenciation. Sa tonalité engagée appelle toutefois une lecture critique, les chiffres avancés et les exemples doivent être replacés dans les contraintes propres aux professions concernées, ainsi que dans les méthodes de calcul retenues. L'apport principal de l'ouvrage est donc moins de fournir un programme de réforme clé en main que de transformer une question abstraite, celle de équité, en objet vérifiable et discutable. Il rappelle que la transparence des avantages collectifs constitue une condition essentielle de la confiance dans la République. Si vous souhaitez soutenir Olivier Calon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.